Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Si la mer est bleue et calme, sa couleur d'encre peut couvrir un chaos, celui de nos vies, de notre histoire, de nos activités. Avec leur micro pour pinceau, aujourd'hui dans Gymnastique sonore, deux artistes nous font écouter la mer autrement. On démarre une première création de 10 minutes réalisée par Lorneria, les voix du fleuve. Ce paysage or et subaquatique a été réalisé sur le fleuve Saint-Laurent, à Montréal. Il s'écoute en écho à un poème que vous pouvez découvrir sur le site de la Poésie de Dehors. Il nous souffle, et parfois même nous assourdit, avec les voix cachées du fleuve, les voix du port industriel, les voix des bateaux, et parfois, les chuchotis des poissons. On écoutera ensuite Île Grande, un documentaire de 50 minutes par Jean-Guy Coulanges. Cette création est pensée sous la forme d'une déambulation au bord de l'Estran en Côte d'Armor. Nos pas et nos oreilles nous mènent ici vers l'histoire des carrières de granit. Je vous quitte sur quelques lignes de poésie par Lorneria. Assise dans mon embarcation gonflable, j'écoute le vacarme du fleuve. Les allées et venues des bateaux, des vedettes, des cargos, des navettes, les chassés-croisés des conteneurs, les cris des algues acides, abandonnés des acouphènes. Désaxer les baleines, éclore les alevins, écailler les gardons, et faire pâlir la brunante. Je plonge mon micro d'argent.
Dehors est un poème, paysage sonore.
Là, on vient de quitter l'île Grande, donc on est sur l'Estran, entre l'île Grande et l'île Aganton. Alors, qu'on trouve nommée soit l'île Aganton, plus loin, ou maintenant tout le monde dit Aganton, parce que je pense que historiquement c'était l'île Aganton, qui était devenue écrite sur les cartes Aganton. C'est celle-là, où il y a quelques arbres qui sont en train de mourir. Je sais pas si on va essayer de passer là ou si on veut se mouiller moins. Ça a été beau de soi, c'est vrai, je suis obligé de passer par là.
Je te suis.
En passant dans le trou, là, on risque de se. de remplir les bottes. Voilà.
D'accord. Tu casses la gueule.
On va essayer de. Pour pouvoir. Passer près d'une une des forges que je connais, là, que j'ai identifié. On va essayer de passer sur cette partie-là de l'île Aganton. Hein, donc à droite des quelques arbres qu'on voit là. Tout ça, une forge, c'est un grand mot. Hein. C'est un petit abri, évidemment bâti en pierre sèche avec les déchets d'exploitation des carrières. Et dans ces petits abris, il y avait une cheminée assez rudimentaire. Et là, il faisait du feu pour pouvoir en permanence aiguiser les outils qu'ils utilisaient. Notamment les burins, certainement. Hein, je ne suis pas un spécialiste, mais il fallait sans arrêt réparer mettre le matériel en état, et donc il y avait une forge, et je suppose qu'il y avait, je ne sais pas si le forgeron était un carrier.
J'ai cru comprendre que au début...
Alors, comment j'ai commencé Bon, moi, c'est pas dur, je vais avoir 81 ans là, hein. Donc j'ai commencé en 46, hein, à travailler, donc à sortir de l'école, 14 ans, hein. Il n'y avait pas grand-chose, soit l'armée, soit... Mon père était anti-militariste, parce qu'il avait fui Mussolini en Italie. Autrement, il aurait été tué, bien sûr. Hein. Bon, c'est comme ça. Il est venu à Paris, en passant par les Vosges. C'est là qu'il a connu ma mère, à Paris. Bon, mais à ce temps-là, l'école, c'était 14 ans ici. Il n'y avait pas de sous, hein. Alors, moi, on m'a dit, si tu as ton certificat d'études, tu auras les vacances. Sinon, à la carrière. Tout droit, hein. Pas compliqué. J'apprenais rien à l'école, hein. Mais ma mère avait dit à l'instituteur, au directeur, mon fils ira quand même au certificat d'études. Je raconte ça en vitesse, hein. J'avais une copine, elle est morte, une sœur, une tante à Thierry Luron, qui était à l'école, même âge que moi. Eh bien, on a été au certif. Moi, deuxième du canton, et elle, première. Alors qu'on n'apprenait rien à l'école. Ben une fois que le certif a été élu, hein, on m'a dit les mois de vacances, 1er septembre, c'était pas loin, on allait à pied, bien sûr, 1,5 km. J'habitais Ploumanac en ce temps-là. Hein. Et là-bas, on m'a commencé à me faire regarder un peu toutes ces choses-là. J'étais intéressé par le matériel qui montait les cailloux, les blocs. Non, c'était du matériel, hein. C'est pas maintenant. Hein. Non, ça a bien changé, mais enfin, il y avait... un gros diesel, semi-diesel qui marchait à l'huile lourde, qui faisait compresseur, il y avait déjà un compresseur quand même, et puis qui faisait tourner le petit treuil à la grue. Je restais là un moment. Et puis le contremetteur, parce qu'il y avait deux parties, il y avait le bâtiment et le monument funéraire. Hein. Alors pour commencer, tout le monde démarrait au bâtiment, hein, parce qu'il fallait taper sur les mains, enlever la peau là, plusieurs fois, pour que ça marche bien. C'était un copain à mon père. Mon père était forgeron. C'était lui le chef forgeron là-bas. Et c'est lui qui lisait les plans et tout. Hein? Bon, c'est pas parce que c'était mon père, mais c'était comme ça. Édouard Robin, c'était le contremaître du bâtiment. Bon, ben, il dit à mon père, il faudra que Serge vienne commencer à taper sur les cailloux. Mais, il y avait un gros mais. En ce temps-là, il fallait encore apprendre à forger avant, faire les outils qui servaient à tailler les cailloux. Alors, il y avait 4 forgerons, c'était pas mal, parce que là-bas, ça débitait. Il y avait 70 ouvriers à la coopérative là, du Granit Rose à la Clarté. Hein. Ça a été formé après 36. Alors bon. Bon, moi j'ai commencé à taper avec un forgeron de Trégastel. Ah, le vieux feuillet, sale bête. C'est une sale bête, le théorème, c'était une sale bête. Il mettait même des outils chauds parmi les froids, comme ça, pour donner aux gens. Puis il aimait bien boire. Alors, il fallait donner à boire, hein. Feuillet. Dame des dieux, moi j'ai dit, moi je vais pas continuer comme ça. Un beau jour, il était penché en train de tremper. C'était des demi-barriques coupées avec de l'eau, en train de tremper un poinçon. Moi, j'arrive par la fenêtre avec le plus gros caillou que j'avais pu trouver de la carrière, et puis, plouf, dans le bac. Ah, alors, voilà, foutu dehors de l'ordre, bien sûr. J'ai fait le service dans la marine quand même après. Après, j'ai été fusilier marin. Bon, mais non, mais pour la marine marchande, j'avais fait des démarches et tout ça pour aller. J'ai même eu mon fascicule de marine marchande et puis ça n'a pas gazé. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle même pas. Je ne suis pas parti. Je vais être carré, 47 ans. J'ai pigé tout de suite ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait des fendeurs qui nous fendaient les cailloux à nous. La catastrophe. Parce qu'on travaillait aux pièces. Un caillou payé, s'il était bon. S'il était bon, s'il n'était pas bon, pas de sous, hein. Parce que le contremaître, tous les jours, passait avec son pot de peinture, hein. Tac, tac, comptait, marquait. Moi, Serge, tant de fait. Bon. Ça a duré un certain temps comme ça. Et les vieux parlaient en breton entre eux. C'est comme ça que j'ai appris le breton. Parce qu'ils foutaient de la gueule des jeunes. Moi, j'ai, dans la bande des jeunes, c'était moi le plus dégourdi, je vais dire. Hein, les autres, ils se sont laissés glisser beaucoup trop. Bon, moi, je me suis démerdé. Et un beau jour, j'ai dit, maintenant, moi, je fends mes cailloux. Et moi, je les fendrai. On me donnait un bloc. On nous donnait les blocs, hein, avec le chef carré. T'as qu'à prendre celui-là. C'est toi qui te débite. Moi, je travaille au pied. Moi, je peux vous dire, en un an de temps, j'ai rattrapé le salaire de mon père. Je l'ai dépassé. Je finissais ma journée à 3 heures de l'après-midi, moi. J'allais courir, moi, après. Et le directeur, il appelait mon père. Mais t'as vu, ton fils est encore parti après-midi. Mon père, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il a fini sa journée, il gagne plus que moi. Il part, il va où il veut. Et puis j'avais grandi aussi un peu, hein. Jamais plus personne n'a fendu un caillou pour moi. Hein. C'est moi qui fendais. Moi, je fendais ça presque fini. Hein. En travaillant aux pièces, moi, comme j'ai fait, j'étais heureux. Moi, j'avais pas de compte à rendre à personne. Si, au contremaître, bien sûr, j'étais oublié. Il contrôlait mes cailloux aussi. Hein. Après, c'est moi qui ai pris sa place.
Pendant longtemps, les carriers ont exploité le plus facile à exploiter. Tant qu'ils ne disposaient pas notamment de l'explosif ou des engins mécanisés, motorisés, leur possibilité de creuser était assez limitée ou d'extraire. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils repéraient tout ce qui était accessible. Alors on peut imaginer qu'ils ont commencé, là on voit très très nettement là une partie de l'île Lagranton qui a été arasée, ainsi que là-bas l'autre endroit, l'autre pointe, tout ça devait être former des chaos de rochers sûrement assez élevés, hein. Il y a un endroit, l'endroit où tu as été près de la LPO, qui s'appelle Castelirec, le château Castel. Donc on devait avoir un grand monticule, une grande masse de rochers dont on connaît pas la forme aujourd'hui et qui a été arasée. Donc tout ça, ils l'ont d'abord attaqué ça, je suppose. Et puis sur l'estran, toutes les pierres qui leur paraissaient intéressantes pour extraire des linteaux, de la pierre à bâtir, etc. Et donc, il parcourait les strands, j'imagine, à la recherche de ces pierres intéressantes. Ça n'est qu'après qu'ils ont pu exploiter des carrières importantes, là, près de la LPO, etc., parce qu'on a pu mécaniser. On extrayait avec des engins assez puissants, ce que l'homme ne pouvait pas faire avec ses bras. Ou avec une chèvre, enfin, ce qu'on appelle une chèvre, un système de levage, quoi.
Ouais, je vois. Ouais. Et j'ai l'impression que on n'a absolument aucune idée du véritable paysage d'il y a 150-200 ans.
Voilà. Oui. Il y a je crois que j'ai pas trouvé une femme qui a été institutrice à l'île Grande. Alors, ça devait être au début du siècle. Il y avait un témoignage de cette femme qui, elle, étant un peu quelqu'un qui observait, qui écrivait et qui pouvait exprimer un peu ce qu'elle voyait ou ce qu'elle ressentait aussi peut-être, et qui parle de véritables châteaux, effectivement, de pierre, qu'aujourd'hui on ne voit plus, quoi. Alors on pourrait peut-être en 3D, imaginez. Moi je me suis amusé à réfléchir à ça. J'avais fait un calcul du nombre de milliers de tonnes de granit qui ont pu être enlevées sur l'estran. Et à partir de ce volume-là, on arrivait à peut-être à 20 ou 30% près, mais à quelques centaines de milliers de tonnes. Et là, on pouvait se dire, il a bien fallu les enlever de tel ou tel endroit prioritairement. Donc il devait y avoir des chaos qui représentaient peut-être qui montaient à 10 mètres ou 15 mètres de hauteur, je sais pas. Voilà. Mais ça n'a pas été fait.
En blaguant, on a même dit avec mon ami Carrier de hier soir,
Monsieur Belloir.
Belloir. Que parfois le granit de l'île Grande avait une teinte un peu révolutionnaire pour avoir été
à cause des
largement balancé sur les CRS, entre autres.
Oui, c'est vrai. Oui, voilà, on le retrouvait du côté des boulevards haussmanniens à Paris.
Ce qui serait drôle, c'est qu'il y ait des CRS qui soient nés à l'île Grande.
Il y en a sûrement. Cherchons bien, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas.
Moi, je suis né en 27. Je suis né rue du Pont. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et l'école ne m'intéressait pas tellement non plus, parce que je vais être franc. Et j'ai dit à mon père, écoute, puisque tu connais le métier et que tu as une carrière, tu vas m'apprendre à tailler la pierre. J'ai commencé la carrière à l'âge de 17 ans. Il fallait que j'en morfle un peu, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans le trou, en profondeur, pour arracher la pierre, pour que d'autres tailleurs de pierre travaillent la pierre, la façonnent. Ils tapent dessus, jusqu'à l'âge de 27 ans, donc 10 ans, je travaillais la pierre. Mon grand-père était carrier, aux îles Chausset, Hervé Chausset dans la Manche. Et un oncle à moi, donc, est venu à l'île Grande et a vu comment travaillaient les ouvriers. L'extraction était plus facile à l'île Grande que dans les îles Chausset. Donc, il a été là-bas, il est retourné à Chausset, et en expliquant ça à mon grand-père, ils sont venus après avec un bateau, avec leurs meubles, tout ça, ils ont habité à l'île Grande et ils ont exploité à l'île Grande. Non, j'ai encore oublié quelque chose, là. Hein.
Quoi donc? Tu veux aller le chercher?
Le bouquin que j'ai écrit, là.
Ah, mais c'est
là. Ah, tu l'as pris?
C'est Madame Belloir qui
a échangé. Ah, bon. Et voilà, non, vous n'avez pas l'image. Mon grand-père, aux îles Chausset, se servait de ce bateau pour transporter, c'est-à-dire après avoir extrait le bloc, il était élingué, qu'on appelle ça, c'est-à-dire entouré d'une chaîne, et un orin, et une bouée. Quand la mer montait, la bouée surnageait, le coucou venait au-dessus de la bouée, et il passait ça par le trou, là. Il y avait un treuil, à main, bien sûr, et il montait sous le bateau, sous le coucou. C'est un nom qui avait été donné par les Normands à l'époque, parce que c'est eux qui se servaient du coucou pour faire ce transport de l'extraction à la taille. Je vais vous faire voir ça. Vous voyez ici, là, le bloc a été coupé dans son fil. Il a été coupé précédemment en hauteur, comme celui-là, et dans le fil, en épaisseur. Là, ici, il y a même tous les outils, là. Alors là, c'est une chèvre et un treuil. Alors, avec un câble d'acier, bien sûr. Le bloc était élingué d'abord, accroché à une poulie, et viré ici où il y avait un wagonnet qui roulait sur des rails. Et après, on le transportait où on voulait, quoi. Alors voilà le bloc, là, avant de le débiter, il faut qu'il soit dégagé. Si on ne peut pas le dégager jusqu'au fond du rocher, on l'uberde, on appelle ça. C'est-à-dire on le divise en deux, de par son épaisseur. Bien coincé, hein. Avec un poinçon, on enlève toutes ces bosses-là. Enfin, on égalise avant, mettre d'équerre, toutes ces bosses-là, et après, avant de le polir, on boucharde. On raffine avant. Il n'y a pas un morceau, là ? Tiens, là j'ai tapé à la boucharde. Là. Il tape dessus. Et il y avait plusieurs trous, selon la dimension du bloc à couper. Il mettait de l'eau pour faire gonfler le bois. Le bois, en gonflant, faisait éclater le bloc. Alors après, il fallait le travailler, bien sûr, selon ce qu'on voulait, quoi. Les Normands sont arrivés. Ah, j'invente rien. Et ils sont arrivés avec la façon de faire pour mettre ce coin. Voilà, cette forme de trou fait avec ce coin-là. Mais j'ai fait petit pour pas avoir de... Et quand c'est raffiné, le coin ne touche pas le fond. La force se fait sur les côtés. C'était la façon de travailler des Normands avec ce coin-là. J'ai un bloc qui était... À l'île Losquet, c'est une île, donc les coins étaient recouverts à chaque marée, bien sûr, quoi, d'eau. Ça, c'est le granit de l'Iran. C'est du granit bleu à grain fin. On se sert surtout, enfin, on se servait à l'époque pour faire des pavés pour le Nord et pour Paris, donc. Donc, le Bourg-Logemarne qui a été... recouvert de bitume parce que pour qu'il n'y ait plus de 68. Ça me fait rigoler, mais enfin, ça fait...
Voilà, ouais, on va aller au chaud. Non, moi, je crois que c'était pour l'ambiance.
Parce que vous ne connaissez rien du granit, là.
Que dalle.
Comme moi, il y a une guerre, hein.
On va se mettre au chaud, là.
Dans la maison, on va se salir, là. Oh, c'est pas grave. La femme de ménage est là.
Conrad est venu sur l'île Grande, et, bon, dans des échanges épistolaires, lui ou sa femme, il parle de ces... Parce que c'est l'époque où ces carriers sont arrivés de Normandie, et qui travaillent notamment pour la femme chez qui ils logent. Et il explique effectivement qu'ils arrivent avec la chante perse, et d'ailleurs il décrit à un moment donné le... Il dit que sur l'estran, il y a ce son sans arrêt, ce son, c'est une musique des chants de perse qui cognent contre les blocs de rochers. Et il explique que ça aurait pu être, ce sont les commentaires aussi de Jean-Pierre Le Dantec là-dessus, il dit que ça aurait pu être conflictuel, le fait que ces carriers venus de Normandie, apparemment virés des exploitations de granit dans lequel ils travaillaient parce qu'ils étaient revendicatifs, parti communiste, CGT, etc. Et donc ils arrivent, notamment ils arrivent sans doute en apportant leurs idées syndicales, et puis avec cette technique nouvelle. Et en fait, il n'y a pas de conflit, parce que c'est beaucoup plus rapide avec la chante perse, d'après ce qu'ils disent, et il n'y a pas de conflit, au contraire, les carriers de l'île Grande, la région ici, adopte la chante perse. Mais ils ne connaissaient pas, semble-t-il, la technique. C'est assez étonnant, quoi. Qui est quand même simple. Hein. là, on laisse Lindgren. Le ciel qui... qui est en train de se couvrir. D'exploitation. Alors cette pierre-là, pourquoi est-ce qu'elle a été... Ils ont taillé, puis sans doute, n'a pas répondu à l'attente. Donc on a laissé là. On n'a pas été plus loin.
Donc on voit carrément des encoches tous les 10 cm.
Voilà. C'est comme des fermetures éclair un peu.
Qui, à force de les répéter, font se scinder le...
Voilà. Alors peut-être que ça se prolongeait beaucoup plus loin et qu'ils ont enlevé... Je sais pas. C'est très difficile de savoir... Bon, en tout cas, là, ça a été exploité. Et cette pierre, on l'a laissée là. Et là, on est sur l'estrand. Hein. Il n'y a pas une pierre presque qui est à sa place ou qui n'a pas été, qui n'est pas le résultat de l'exploitation. Là, on a des grèves. C'est du déchet d'exploitation, tout ça. Ce n'est pas des cailloux qui sont là par hasard. Il n'y aurait pas ça s'il n'y avait pas eu des carriers qui, patiemment, alors pendant des dizaines d'années, ont travaillé la pierre. Et ça, ce sont les déchets qui sont accumulés là. C'est pas naturel, si on veut. Les voies des carriers. C'est des voies qu'on n'a plus maintenant. Pour échanger ici, dans le vent, dans les conditions où ils travaillaient, dans le bruit aussi, il fallait des voies qui portent, et les voies étaient façonnées par la vie que menaient les gens et par leur territoire, quoi. Et donc, ces voies, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus des voies comme ça. Puis il n'y a plus des gens comme ça, avec cette force, avec cette... C'était le temps des seigneurs, ça n'est plus le temps des seigneurs. Peut-être aussi parce que leur pierre, d'abord extraire la pierre, c'est quelque chose. Hein, extraire la pierre pour aller construire, pour aller faire les quais de la Tamise, du Havre, de Bordeaux, pour construire la cathédrale de Tréguier beaucoup plus tôt. Donc je pense qu'il y avait ça aussi, c'est quand même un métier de seigneur. Et là encore, la trace de l'exploitation. On a travaillé au Burin et à la massette pour séparer les pierres. Alors celles-là sont restées là, comme celle-ci, qui a l'air assez belle.
Avec du lichen dessus.
Avec du lichen, oui. Oui. Et souvent recouvertes. On voit aussi des trous aussi réalisés sans doute à la chambre perse.
Mais oui.
Hein, voilà, un peu partout. Ils exploitaient et certaines pierres restaient là. Et on en verra tout à l'heure sur les fronts à des endroits beaucoup plus étonnants. Parce que là, après tout, c'est une carrière.
Je m'appelle Monsieur Chouquer, Joseph. 51 ans. Non, 53 cette année, mais donc on vieillit, ça rajeunit pas. Donc j'ai commencé à 18 ans, puis j'étais justement maladie à l'âge de 39 ans, j'ai arrêté, quoi. J'ai attrapé la silicose, je suis resté en invalidité, quoi. Dans le granit, il y a des éléments, je crois qu'il y a 13 composants, et beaucoup c'est le quartz qui bouffe les poumons, quoi. Et donc c'est piqué dedans, et là on peut plus, la respiration il en manque. Donc à la fin, moi j'étais arrivé à 40% de souffle en moins, hein, quand même à 39 ans, donc on m'a dit si je restais là, j'allais faire mon trou moi-même, parce que je travaillais dans un trou, hein. Donc là, c'était pas toujours. Donc il a fallu que je choisisse et puis j'ai arrêté. Quoi. La médecine de travail m'a stoppé. Quoi. Mais c'était ça le plus mauvais, je crois. Le reste, l'ambiance était bonne. Mais à part ça, voilà les bons souvenirs que j'ai eu là-dedans. Hein. Bon, je parle pas de. Moi, malheureusement, j'ai eu de la chance de sortir de ce trou, mais mes deux patrons, ils n'ont pas de chance. Ils sont morts tous les deux. Enfin, il y a des trucs comme ça. Mais pour moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est l'ambiance. Ah ouais, j'aurais toujours l'ambiance. Boulot dur, mais des collègues sympas, ça caillait, tout ça, mais c'était pas grave. On le faisait. C'est ça qui m'a motivé. Le matin, j'allais au boulot, content. Même si c'était dur, la poussière, tout. On se voyait même pas, des fois. Et le chalumeau. Les gars qui étaient en face, ils étaient là, mais on le voyait pas, la poussière. C'était fou. Surtout que le soleil, ça brillait de partout là-dedans. Ben, j'espère que maintenant, ils sont moins malades qu'avant, parce que il n'y a plus ce chalumeau, là. C'est celui-là qui nous a bouffé les poumons, tous. Hein. Pratiquement, la poussière, hein, c'est dingue. Ah ouais, c'est dur, c'est un métier très dur, ça. Puis ça va en diminuant, je pense. Au moins, ça ne durera pas éternellement. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne vois pas autrement.
vais juste faire remarquer la présence des croix qui sont là. Uh-huh. Voilà la croix avec ce petit oiseau. Et il y a une seconde croix là dont tu aperçois juste là. Là le sommet, tu vas presque pour là. Uh-huh. Je sais pas si tu la vois là. Et il y en avait une troisième, je crois. Et c'était amusant parce que je relisais il n'y a pas longtemps, il y a des légendes sur ces croix qui se rapprocheraient de chaque... Oh, je ne sais plus, j'ai oublié, mais vraiment de la distance d'un grain de blé tous les 100 ans, ou je sais pas, mais qui se rapprochent quand même. Hein. C'est une légende autour de ces croix qu'on dit mérovingienne, que d'autres disent plus anciennes encore, mais elles sont très belles. Hein. J'aime bien passer près de ces croix.
C'était pour honorer des morts ?
Non, je pense pas. Non. Personne ne connaît, je pense, la raison de la présence des croix. Là, cette île n'a pas été habitée, sauf peut-être dans des temps préhistoriques. On va essayer de prendre ce petit chemin-là pour aller plutôt vers cet endroit dont je te parlais. Enfin, c'est égal. Hein, on va...
Ah non.
Voilà. Une grotte de lapins partout, il y a des quantités de lapins ici. Qui...
Ce sont les rois.
Oui. Les sangliers qui viennent aussi. Qui traversent même ou qu'on retrouve parfois sur les îles même. Qui nagent.
Tous les jeunes de mon âge, là, ils sont morts parce qu'ils picolaient. Et les vieux les poussaient à boire aussi. Hein, du vin. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait des tickets de travailleurs de force. Alors, mon père, il avait ses tickets. Moi, j'en touchais. Tous les vieux, ils disaient, mais donne-nous tes tickets. Mais mon père, il a le droit de boire du vin. Il n'en a pas bu pendant la guerre. C'est à lui de le boire, mais non, c'est pas moi. Hein, c'était normal. Mais quand c'était les fêtes, toutes les fêtes étaient souhaitées dans les carrières. Les Saint-Jean, le Saint-Yves, le Saint-Pierre, le... Il y avait 5-6 gens dans le chantier. 5-6 pierres. Hein, 5-6 Yves. Hein, vous voyez, alors, hein, il fallait payer, tout le monde n'avait pas à boire. Hein. Ceux qui ne payaient pas, ils n'avaient pas non plus. Hein. Et il y avait beaucoup de paris entre eux. Parce qu'il y avait il y avait des bons, des très bons, et des supérieurs encore. Hein. Il y avait Perto, là. Ah, un gars qui faisait du monument. Il avait une massette, deux fois comme nous, on avait. Faisait des tombales, la tombale à croix relief que vous voyez dans les cimetières. Je ne me rappelle plus combien de temps ça durait. Hein. Mais ils battaient les autres d'une semaine, hein, presque, la longueur. De sacré... Oh. Ils tiraient des éclats comme ça, tu vois, ils chantent. Après, hop. Beaucoup sont morts de la silicose. Mais le plus dangereux, c'était même pas le tailleur de pierre, c'était les polisseurs. Les polisseurs, ils mêlaient les cailloux bouchardés. Les cailloux bouchardés, avant qu'ils viennent des scies. C'était fait à la main, bien sûr. Et il y avait trois sortes de bouchardes, la 25, la 64 et la 100 dents. 100 dents, c'était fin, mais il y avait quand même des trous. Et les machines à poule, c'était la grenaille de fer. Hein. Mais ils mêlaient beaucoup. Et des mêles au carburant d'onde. S'il y a que ça dégageait ça. Donc, c'était, hein. Nous, on était dehors. Les tailleurs de pierre étaient moins exposés dans le fond, parce que les baraques étaient ouvertes. C'était des baraques comme, disons, la pièce là, mais il n'y avait rien de vent là, en plein vent. Voilà, la poussière ne restait pas longtemps. On a eu plus de poussière quand il y a eu les meuleuses. Hein. Mais moi j'ai passé à travers. Il y avait des gars d'Île Grande, hein, moi, des bons copains qui sont tous morts, bien sûr. Pas beaucoup plus vieux que moi. Hein. Jean Rioux, là, il était de mon âge. Hein, son frère Louis, un peu plus vieux, il n'est pas travaillé avec moi, mais Toussaint travaillait avec moi aussi. Et le contremaître d'en haut, là, qui était chef vendeur en haut, de débiteur de bâtiments, alors. Hein. Il y avait Toussaint. Rio, vous pouvez vous renseigner à l'Île Grande, les rues là, sont connues. Hein. Il travaillait à genoux beaucoup. Il avait une musette de l'armée, kaki, là, marron, c'était la musette de l'armée. Et Jean Bonnier, le contremaître, il venait me voir, c'est un nom de Dieu, qui dit, je ne comprends pas, Toussaint, à 10 heures, il dort. Mais là, il y avait plein de cailloux partout, des tas de débits, de moellons. Vous fallait à ce temps-là, les moellons, il n'y avait pas de briques, c'était du moellon, les chutes de tout le camp qui faisait les murs, comme ici. Si l'intérieur est encore fait comme ça. Hein. Et à la fin, il a trouvé. Il disait qu'il buvait du café. Oui, il y avait du café, mais il y avait plus d'eau de feu que de café. Oh, ben, il est...
Hein? Arrête de dire qu'il boit.
Mais pourquoi?
Ben, pourquoi? Mais les gens qui entendent ça ne vont pas être contents, hein.
Qui va entendre ça?
Qui pas? Pour ceux qui sont morts.
Au cimetière, ils n'entendront pas.
Non, mais la famille.
Mais c'est la vérité ce qu'on dit.
Bah oui, mais bon, quand même.
Ils savent bien, les gens. Enfin, il ne faut pas trop abuser là-dessus.
Bah, justement, arrête de parler de ça.
Mais ça fait partie du jeu.
Ah, ouais, mais quand même.
Bon. Ça, c'est l'histoire de... Il y a plein comme ça, je peux raconter des histoires qui sont morts, parce que presque tous, nous, les Kérisors...
Quand même, il y a...
La silicose ?
Oui, oui.
Il n'y a que Bruno Riva qui a eu vraiment la silicose.
Et Jean Gand, oui.
Jean Gand, il est mort d'un cancer, il n'est pas mort de la silicose.
Ah, si, il avait les poumons, quand même.
Hein? Non, non, Jean est mort d'un cancer au poumon. Bon, c'était très dur, et puis les jeunes, beaucoup, étaient faibles après la guerre. Tu prends Jean Paulard, le cœur pas très bien, le cœur... Hein? On opérait du cœur en ce temps-là, mais on ne l'a jamais opéré à 40 ans. Plouf, Louis Kérisor, là, il y avait des sous chez son père. Il n'a jamais voulu faire opérer son fils. Plouf, bien sûr. Bon, après, les autres... Des jeunes qui sont partis de là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Mais tous les copains qui sont restés là, il n'y en a pas un. Hein, pas un. Jean est mort. Adrien Lostis mort. Les deux frères Rioux... non. Comment c'était François Gouin, François Gouin. Et puis son frère, c'était... Oh. Voilà.
Quelquefois, on voit à des endroits, je ne sais pas si on tombera dessus... Tout d'un coup, des pierres, mais qu'est-ce qu'elles font là? Ça n'existe pas ici, il n'y a pas ce type de cailloux. Qu'est-ce qu'elles font là? Et en fait, c'est les bateaux qui venaient chercher le granit ne pouvaient pas venir à ce qu'on appelle allège. C'est-à-dire sans un bateau, une goélette ne peut pas naviguer correctement si elle n'est pas chargée, lestée. Et donc, quand elle n'apportait pas des chargements quelconques, de bois, de tuiles, etc., eh bien, on y mettait les pierres là où on était. Et quand on arrivait près du lieu où on allait charger, on les virait. Et donc on trouve des pierres qui n'ont rien à faire ici, qui viennent d'ailleurs. C'est du fucus, ça. Hein. Tu reconnais bien avec ces petits flotteurs. Le gravier, là. Le large.
Ah ouais.
L'île Millau qui est devant.
L'île?
L'île Millau, celle qui ressemble un peu à un monstre tapis là, devant Trébordin.
Ouais.
Et là, celle qui a beaucoup de sable,
oui.
C'est Molène.
Molène
en breton, c'est l'île Chauve.
L'île Chauve.
Pour aller, on va peut-être contourner un peu parce que c'est pas très praticable là. Et là, on marche sur des pareils, hein, des déchets. De... Il paraît qu'au départ, je plantais des coins dedans. Je voyais une fente, je plantais un coin dedans. J'essayais de décrocher un bout de caillou et puis ça c'était pendant les vacances, hein, les premières années. Un jour mon père m'a dit j'ai plus d'argent pour vous donner à l'école. Alors il faut choisir un métier. Le choix était fait. Et je suis resté là, malheureusement. J'aurais pu être marin, Non. J'aurais pu être maçon aussi. Et puis beaucoup de choses, après, je me suis rendu compte, mais trop tard. J'ai passé des tests psychotechniques, là, 3. Et à chaque fois, le surveillant de la séance, comme j'avais fini de bonne heure, j'ai donné mon carnet. Et puis, à chaque fois, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'avais tout rempli, et bien. Et puis, bon, ça m'a pas... Ça m'a pas touché, quoi. Je suis resté quand même. Il était tout. Forgeron, extracteur, tailleur. Je manipulais les blocs, je montais les blocs, j'étais grutier, tout. 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 J'étais un peu casse-cou, je montais des gros blocs quelquefois. Et puis, à la limite de la grue. Et puis. Je n'ai pas tellement choisi, mais on m'a. Mon père m'a placé là, à l'extraction, parce que je me débrouillais bien, sûrement. Et puis. Mais je faisais tout le reste après. Ça dépendait du nombre d'ouvriers qu'il y avait. Quoi. Au départ, il y en avait pas mal, alors. Il fallait beaucoup de blocs. Et il n'y avait pas de compresseur. Quand on est sur une plateforme comme ça, où il y a des rochers. Il faut déjà trouver l'endroit où les fils sont disposés de telle manière que, je sais pas, moi, en triangle, par exemple, alors on commence par le bout le plus large, et puis après, ça sort plus facilement. Ou alors on dynamite, on met de la dynamite pour créer un passage, une liberté au rocher, quoi. Quand il y avait un grand rocher bien carré et tout ça, on dimensionnait pour faire des pavés ou des bordures, ça dépendait. C'est surtout ça qu'on faisait dans le temps. Pavés, bordures. Bon, les dimensions qu'il fallait pour faire ça. Et après, on le débitait, et puis on le fendait. Puis quand le rocher était arrivé assez petit en bloc, on le montait. Et on le livrait alors sur des wagonnets. Là. On bénait un bloc devant chaque petite baraque, et puis. Chaque petit baraque, chaque abri. Il y avait trois murs de maçonnerie en pierre sèche et puis des tôles dessus, c'est tout. Alors selon le vent, ben, un jour, il n'y avait pas beau. Ouais, ben. Le jour où on les touchait beaucoup, c'est quand on chargeait les bateaux de pavé. Et quand on finissait le chargement, il n'y avait plus de peau sur les doigts. Ça saignait de partout. Ouais. Si on en laissait un tomber, on cassait son sabot. Parce qu'à l'époque, c'était des sabots. Quand un ouvrier se plaisait pas dans une carrière, il prenait sa massette et puis il allait travailler la carrière à côté. Donc c'était pas la guerre quand même, quoi. Bon. Ça me plaisait pas mal, ça me plaisait, enfin, je sais pas. On aimait bien quand les estivants venaient ici en été, et puis ils nous demandaient ce que. C'était pas trop dur, c'était pourtant beau, c'était. Vous avez la chance de travailler dans un cadre pareil, parce qu'on voyait la mer, tout ça. Alors je disais, bien sûr, il faut venir là en hiver, et puis. Et autrement, bon, bah, quand ça se passait, quand la mer était basse, ça se passait à pied, les femmes venaient jusqu'à les cantons, nous portaient la gamelle. Et quand elle était haute, il fallait prendre le bateau, revenir à la côte de l'Irlande, face à la côte de l'Irlande, pour prendre les gamelles, et puis de retourner les cantons. Quand on invitait des jeunes filles à venir à la pêche au Lançon, c'était des cris pas possibles dès qu'elles le touchaient, ça frétillait dans la main, elle lâchait tout. Ah ouais, puis elle poussait un cri, hein. Et puis elle le laissait partir. Ouais, jamais je me suis plaint. Jamais j'ai pensé que j'étais fatigué, que. J'ai jamais eu mal au dos. J'étais résistant, quoi. Et pourtant, j'étais dans la poussière. J'ai fait les puits. Dans les puits, on ne voyait pas. On ne voyait pas de la surface, on ne voyait pas en fond miné. Et puis, donc, je respirais cette air.
Mais c'était sûrement bien filtré avant. J'étais formé de bonne heure par le granit, et puis résistant. Ça laisse des traces. C'était dur. Et puis, bon, ça nous a fait vivre quand même. Si c'était à refaire, je ne resterais pas les grandes. Pourtant, j'aimais bien les grandes, mais je ferais autre chose que taper sur le granit. Ça, c'est sûr.
Et ici, en face, le phare des Triagoses.
Le phare de ?
Des Triagoses. De Triago, on ne prononce pas forcément le Z ici. Donc on voit légèrement éclairé, là.
On voit presque deux visages qui se font face.
Oui, c'est très... Oui. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms donnés à ces, à ces rochers-là, en fonction de leur forme, de leur morphologie. Là, on voit des goélands. Avec un peu de chance, si on était un peu plus loin, là, on verrait les fous de Bassan. À cette époque-ci, ils commencent à venir et à plonger, là. Et c'est des bêtes magnifiques. Ah, c'est amusant aussi, tu vois.
Ouais, d'un coup, il y a un tas, là.
Coup, là ouais.
On dirait même qu'il y a un trou qui a été comblé, en fait, peut-être.
Ou alors, est-ce que c'est le dernier endroit où ils ont travaillé pour exploiter et ça n'a pas encore été avalé par la végétation? Je sais pas. Là, on voit quand même tout ça. Il y a eu beaucoup d'exploitation ici, quoi. On voit des restes de matériel aussi métallique, là, tu vois. On voit pareil, hein. Partout, les traces d'exploitation. Tu vois. On a quelquefois l'impression d'être à l'origine du monde, tu sais, quand on est... Moi, j'adore aller sur le skate, là-bas, derrière. Alors là, parce qu'on n'a plus aucune vue de... Il n'y a plus de maison, il n'y a, y a plus de présence humaine.
Avec Yvon Rochard, les carriers tailleurs de pierre, Serge Anoni, Roger Belloir, Joseph Choquer et Jacques Héroïc. Merci à Armel Parentoen, ainsi qu'à Gilles Benz, Pascal Guilouette, David Puech, Claudine Rodriguez, Étienne Simoneau, Gisèle et Joël Vrignot.
Tu fais attention, oui.
Absolument.
On y arrive.
Le temps des seigneurs est le titre de la pièce radiophonique de Yann Parentoen. Île Grande, hiver 2013. Réalisation Jean-Guy Coulanges.
Ah ben on y arrive.
Oui, ça va y arriver.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.